Vous êtes sur RTL. En direct du studio 11, au 56 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, on défait le monde en RTL Soir, saison 2, épisode 14. Cyprien Signy.
Et toute l'équipe qui vous accompagne, bien sûr, on prend les commandes. L'équipe de On défait le monde, le vendredi soir avec Cyprien. Marie Mollet est là ce soir, Brice Dugénie, Céline Landreau, Laurent Tessier, Greg et Thomas Nett, on vous accompagne. Actualité traitée avec rigueur et bonne humeur, vous le savez, vous réagissez, vous commentez, le compte Twitter à disposition, vous avez la page Facebook de l'émission. Nous sommes vendredi, 19h17, alors c'est parti, voici le sommaire.
Avec l'accent, les glottophobes n'ont qu'à bien se tenir. L'Assemblée nationale a voté la loi sur la discrimination aux accents. Ce soir, on partira aux origines de l'hégémonie de l'accent parisien. Les annonces de vaccins, tous plus efficaces les uns que les autres, se multiplient. Vrai succès médical ou coup marketing des labos. Eh ben, on tentera d'y voir plus clair entre médecine et communication. Vos rendez-vous incontournables qui font le succès de cette émission. Le loser, le grand perdant de la semaine de Céline Landreau. Et Céline, qui a fait de drôles de rencontres sur le réseau social préféré des jeunes.
TikTok, qui est là? C'est Marlène Schiappa.
Formidable. Le billet retour de Brice Dugénie est pas vraiment de droit de suite ce soir, puisque Brice, actu oblige, vous avez eu la bonne idée de vous plonger dans les dribbles politiques du dieu du foot, Diego Maradona.
Oui, avec Hugo Chavez, Fidel Castro, encore Nicolas Maduro, des partenaires à la limite du hors-jeu.
D'ici 20h, vous aurez bien entendu vos trois infos pour briller au dîner. Dans Marche ou Rêve, on prendra des nouvelles de cette famille partie faire le tour du monde à vélo qu'on vous avait présenté fin août. Alors, je vous révèle rien, mais je peux vous dire qu'il y a eu du changement. Et puis, bien entendu, le service cadeau dont défait le monde vous a encore dégoté. Ah. Un séjour de rêve à gagner vers 19h40, un week-end 4 étoiles sur la côte normande, histoire de fêter comme il se doit l'allègement à venir du déconfinement. On défait le monde, saison 2, épisode 14.
Allez, hop. On va en route pour l'aventure. Aventure, nous voilà.
On défait le monde dans RTL Soir.
Vous faites super bien les accents.
Ah oui.
Waouh.
Ah,
surtout l'accent
vous
parisien.
Vous répétez l'après-midi, non?
Dans votre bureau, non?
J'ai pas assez répété, c'est ça que vous voulez dire?
Non, c'est pas ce que je voulais dire. J'espère que vous serez bon pour le surf de la semaine. Oh là là. C'est parti. Vous surfez tous les matins, bien sûr, du lundi au vendredi, 6h40 et juste avant 8h. Mais pour nous, le vendredi soir, c'est le gros surf de Cyprien.
Eh bien, cette semaine, vous avez peut-être fait la découverte d'un nouveau ministre. Oui, c'est pas le plus connu du grand public, hein, c'est le dénommé Alain Griset, ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises, des PME, donc, hein. Mais pas que. Et oui, écoutez bien.
Jean Castex, toujours avec Olivier Véran et Alain Griset, le ministre délégué au PMU.
Et oui, il est aussi ministre des PMU. Parce que Alain Griset, bah, il est comme Guilux.
Et oui, le tiercé, c'est mon dada.
Le tiercé, c'est son dada.
Et en même temps, bah, le bar PMU, on y était un peu encore hein, cette semaine sur les plateaux télé où ça a évidemment débattu vaccin avec les meilleurs experts santé-médecine, comme André Bercoff, hein, qui est médecin comme moi, je suis plombier, sur LCI, qui avait enfin une bonne nouvelle.
Je veux dire encore une fois, c'est très bien, mais vous rappelez le virus du sida, hein, ça vous dit quelque chose quand même. Ça a beaucoup joué. On n'a jamais trouvé un vaccin au sida, et le sida, il a disparu, ou presque.
Bah ouais, disparu ou presque, le sida, pas besoin de vaccin. Bon, 2 millions de contaminations l'an dernier dans le monde, 17 nouveaux cas détectés tous les jours, mais bon, allez, remets-moi une petite suze, Gilbert. Bon, sinon, c'était aussi un peu le PMU au procès Sarkozy, avec l'avocat de Paul Bismuth, alors le vrai Paul Bismuth, hein, l'avocat qui explique à sa façon que lui, il aurait jamais ouvert une ligne avec un faux nom, il est trop malin pour ça.
Dans les services secrets, déjà, ils sont pas toujours fufut et on arrive à déjouer leurs manœuvres. Mais là, c'est, enfin, moi, je sais pas. Moi, je suis l'avocat d'un président de la République. Je fais comme les trafiquants de drogue. Je vais voir un Africain. Je lui prends porte de la chapelle. Je lui prends son portable.
Et Paul Bismuth, pourquoi
ouais, non, c'est bon. Pas du tout cliché, l'avocat. Il est parfait. Bref, un mot du PS aussi. Oui, le Parti Socialiste. Vous vous souvenez? Mais oui, le Parti Politique, là. Mitterrand, le Congrès d'Épinay, tout ça. Eh ben, le PS existe toujours. Oui, oui, ça phosphore même sévère d'ailleurs au PS où le premier secrétaire Olivier Faure a plein d'idées nouvelles pour renverser la table en 2021. C'est le renouveau qui s'annonce, il a trouvé un concept mais alors complètement inédit.
Je souhaite qu'en 2021, nous puissions sans tabou nous poser la question, toutes les questions, le nom. Je pense que ce nom est aujourd'hui mal compris, qu'il est rattaché à finalement des mesures, à des époques et qu'il ne dit plus ce que nous sommes devenus.
Eh ben oui, le changement de nom comme nouveau concept pour un nouveau départ. En voilà une bonne idée révolutionnaire. Mais il proposait quoi Manuel Valls il y a 11 ans comme idée révolutionnaire?
Il faut créer une grande organisation politique autour de ce mot merveilleux qui est celui de la gauche.
La gauche ou le moderne, socialisme
qui rassemble. C'est un débat autour d'un nom. Je pense que le socialisme c'est une idée du 19e siècle merveilleuse.
Changer de nom. Et alors en 2014 à propos du nom,
parce que nous gouvernons, il faut changer. Moi, je ne veux pas attendre que la gauche et le Parti Socialiste changent dans l'opposition. C'est quand nous exerçons le pouvoir que nous devons tirer les leçons de cet exercice du pouvoir.
Eh ben aussi, hein. Et il y a 3 ans, proposez quoi comme nouvelle idée, Jean-Christophe Cambadélis ? Ben, juste comme ça, au passage.
Ce n'est pas impossible, on le décidera. Le Parti Socialiste ne peut plus vivre comme la SFIO. Il faut trouver une nouvelle formule d'agrégat politique.
Ouais, avec des idées neuves comme ça, hein, pour lutter contre le chômage, il va bientôt proposer les 35 heures et 5 semaines de congés payés, dit. Donc enfin, terminons sur une note positive. Oui, demain, c'est le jour des nouvelles mesures. Demain, adieu les 1 km. Les boutiques rouvrent, la vie reprend ses droits et on va lâcher les chevaux, c'est moi qui vous le dis, à l'image de cette dame entendue sur BFM qui raconte le truc de dingo qu'elle a prévu de faire demain matin. Je vous préviens, ça envoie du lourd.
Marcher le long de la Seine et peut-être même pouvoir s'arrêter, manger une pomme.
S'arrêter, manger une pomme. Ouais. Voilà ce qu'on est devenu, les amis. Allez, vive-moi la semaine prochaine quand même. Hein.
Formidable, sort de la semaine avec Cyprien Signé. On défait le monde jusqu'à 20h. Il est 19h23.
RTL Soir, on défait le monde.
La grosse info de ce soir concerne donc les accents.
Oui, car ça fait un moment que c'était dans les tuyaux, mais cette semaine, l'Assemblée nationale a voté la loi sur la glottophobie, la discrimination à cause d'un accent. Alors, dans On défait le monde, avec Marie Mollet, bah, on a voulu aller plus loin en se posant la question essentielle, Marie. Depuis quand avoir un accent, ça semble poser un problème? Ça part d'où, en fait, cette histoire?
Alors écoutez, c'est une bonne question, parce qu'en fait, jusqu'au XVIIIe siècle, la question des accents ne se pose pas. Elle ne se pose pas parce qu'on parle très peu français. On parle provençal, breton, gascon, limousin. Henri IV, d'ailleurs, était réputé pour son accent gascon à couper au couteau.
Vous n'avez pas le son d'Henri IV, hein?
Non, j'ai pas trouvé. En fait, tout commence au moment de la Révolution française, de la Terreur, 1793, où l'on décide d'unifier le pays par la langue notamment, comme l'explique Philippe Blanchet, professeur de sociolinguistique à l'université Rennes 2.
Il y a eu une politique à partir du régime de la terreur qui a consisté à unifier la nation en l'uniformisant sur bien des points et notamment sur le point linguistique. Donc il y a eu des lois qui ont imposé l'usage du français et qui ont tout fait pour, comme on disait à cette époque-là, éradiquer les patois.
Éradiquer les patois, vus comme des ennemis de la nation et qualifiés de langue dégénérée ou corrompue. Alors ça a été très long, hein, le français va mettre du temps à triompher et ce n'est qu'à partir des années 1960 que la plupart des enfants sont élevés en français. À partir de là, la chasse aux patois devient une chasse aux accents qu'il faut gommer, effacer. C'est ce que va devoir faire le comédien Paul Crochet, originaire de Béziers. Il témoigne des rôles qu'on lui proposait à ses débuts. Au micro de France 3, on est en 1987.
C'était des rôles de personnages ou des gendarmes. Mmh. C'est grotesque. Des concierges qui viennent du midi, ou des bougnats, des types, enfin, des trucs où il y a 15 lignes à dire, même pas, des fois. Chaque fois qu'on veut représenter un personnage un peu con, disons le mot, c'est souvent avec un accent.
Donc il vaut mieux gommer son accent, Marie. La norme qui va s'imposer, c'est l'accent de Paris.
Oui, parce que le bon accent, il est toujours dicté par celui qui détient le pouvoir. Et que le pouvoir, il est à Paris. Depuis la cour de Louis XIV, hein, le pouvoir politique, administratif, culturel, c'est Paris. En fait, l'accent régional, c'est souvent aussi un accent social, un accent de classe, comme l'explique Philippe Blanchet.
Alors c'est vulgaire, oui, au sens étymologique du terme vulgaire, c'est-à-dire que ça renvoie au peuple. L'accent, c'est populaire. Donc l'accent, c'est prolo, l'accent, c'est ouvrier, l'accent, c'est paysan, les gens chics, les gens de prestige. Les classes supérieures, celles qui justement ont accès aux métiers de prestige, aux places de pouvoir, se distinguent du peuple en parlant différemment et en ayant une autre prononciation.
Parfaite illustration de cela, l'accent du titi parisien. Vous savez l'accent Arletty.
Atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère?
Stéphane, il l'a un peu celui-là parfois.
C'est pas faux.
Accent populaire, eh bien il s'est effacé peu à peu, notamment sous l'influence des classes supérieures parisiennes.
Et alors, est-ce qu'il y a certains accents qui sont plus discriminés que les autres?
Alors oui, tous les accents ne se valent pas, et les plus discriminés, cela peut surprendre, mais ce seraient les accents du Nord ou de l'Est, hein, selon Philippe Blanchet, moins que l'accent du Sud.
Le grand bloc des accents méridionaux qui ont à la fois des connotations positives et des connotations négatives. On va vous dire que c'est chantant, que c'est joli, mais les gens qui parlent comme ça sont des gens pas sérieux, pas travailleurs, pas fiables. Et puis ensuite, il y a toute une série d'autres accents qui, eux, n'ont que des connotations négatives. Franc-comtois, breton, alsacien, ch'timi, berrichon. Là, dans tous les cas, on va vous considérer comme un plouc ou un bof.
Alors, pour bien comprendre, hein, pourquoi l'accent du Sud est associé à la paresse, eh bien parce que la bourgeoisie parisienne des années 60 se rendait sur la côte pendant ses vacances et donc associait les gens du Sud au congé, au farniente, à l'oisiveté.
Ouais. Voilà. Vraiment, vous me regardez comme ça. Je viens de Marseille.
Vous êtes un peu du Sud, vous.
Un petit peu.
Peut-être une imitation d'Henri IV, Cyprien.
J'ai pas l'accent gascon.
Ah, ok, d'accord.
Le décryptage de Marie Mollet dans On défait le monde, il est 19h27.
À suivre dans On défait le monde.
La première info pour briller de la soirée. Et vous découvrirez qui est le loser de la semaine. Comment vous dites, Céline ?
TikTok, qui est là ?
C'est Marlène Schiappa. A tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir. On défait le monde dans RTL Soir. C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
C'est la première de ce soir, il y en a trois au cœur de l'émission, vous le savez, ou au cours de l'émission plutôt. Et la première de ce soir, c'est avec Laurent.
Et c'est sûrement la plus utile, que vous soyez en télétravail ou à votre bureau. Le palmarès des mots de passe les plus utilisés a été publié cette semaine par une société spécialisée, NotPace, ça ne s'invente pas. En tête, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, vous allez me dire, classique, et c'est sûr que c'est tapis rouge pour les hackers. 23
millions. Mais ça change toujours pas, ça.
Ben non, toujours pas.
Alors, j'ai l'impression qu'on répète ça tous les ans.
Il y a un an, on était 1, 2, 3, 4, 5, on est passé 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ah ouais.
Il y a une belle évolution.
Hein. C'est sûr que les hackers, ils vont pas s'en douter.
Ce mot de passe, il faut moins d'une seconde pour le découvrir. Ensuite, bon, on sent qu'on n'a pas envie de trop réfléchir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bah ouais, voilà. Et d'autres mots de passe sont trouvés par les hackers en moins d'une seconde. Password. Voilà, encore plus classique. 0000, ABC 123 ou encore I love you. Ça, c'est plus romantique, c'est pour Brice. Mais si vous voulez être tranquille, certains.
Vous le connaissez bien.
Certains mots de passe résistent plusieurs heures aux gangs des hackers. Job and Talent. Alors, ça, il leur faut 3 ans pour le trouver, sauf que maintenant, je l'ai donné, donc ça ne sert plus à rien. MySpace 1. Autre proposition, QQW1122. Et là-bas, je cherche toujours l'explication. Le mot de passe Jennifer, qui résiste aussi plusieurs heures aux pirates informatiques.
Bah, c'est maintenant.
Bah, plus maintenant.
Voilà, première info pour briller au dîner ce soir, Jennifer. Signé Laurent Tessier.
Allume la lumière.
Allume la lumière quand un expert vient nous éclairer sur l'actualité, Cyprien.
Et ce soir, on va essayer de comprendre cette course à l'échalote qui oppose les labos sur les vaccins. 90% d'efficacité pour l'un. La semaine d'après, c'est un nouveau concurrent qui annonce 95% et ainsi de suite.
Sauf que pour l'instant, concrètement, aucun vaccin n'est arrivé sur le marché.
Non, mais en revanche, à chaque nouvelle annonce, les cours de bourse des labos, mais pas que, s'envolent. Alors pour essayer d'y voir plus clair entre marketing et médecine, on accueille ce soir Frédéric Bizard. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, spécialiste de la santé. Monsieur Bizard, ces annonces de vaccins en cascade, le fait qu'elles arrivent toutes quasiment en même temps, c'est du pur marketing ou c'est juste un heureux hasard ?
Non, non, c'est relativement fondé puisqu'il faut savoir que c'est probablement le vaccin qui est la seule issue par le haut pour sortir de cette pandémie. Il y a des annonces, mais il faut savoir que c'est un marché pour les laboratoires. Donc les laboratoires aussi raisonnent avec des annonces qui leur permettent d'essayer d'optimiser leur position sur ce marché, puisque c'est le premier arrivé qui va pouvoir passer le plus de commandes. On le voit notamment avec les deux laboratoires américains, Moderna et Pfizer. Cette course contre la montre leur a permis de prendre aussi une longueur d'avance, pas simplement sur la mise sur le marché du vaccin, mais sur les parts de marché, en particulier des pays riches, parce qu'il faut différencier le sort des pays riches et le sort des pays pauvres dans cette affaire.
Et est-ce que dans les services comme des labos, quand par exemple, je sais pas, Pfizer sort quelque chose chez Moderna, ils disent, il faut absolument sortir une annonce, il faut faire quelque chose. Et quitte à bluffer, ça existe ça ou pas ?
Non, vous ne pouvez pas bluffer à ce niveau-là. Ce que vous pouvez, c'est ne pas tout dire. C'est-à-dire que, clairement, ces laboratoires sont d'abord extrêmement sérieux. Moderna a levé 5 milliards de dollars pour arriver là où il est arrivé. Il est évident que vous avez une responsabilité par rapport à tous ceux qui vous ont financé. Donc, vous ne pouvez pas vous amuser à dire n'importe quoi. En revanche, on a vu que ces communiqués de presse étaient relativement parcellaires, mais reste à ceux qui connaissent un petit peu la question à bien les interpréter. Mais tout de moins, on avait pas suffisamment d'informations pour en tirer des conclusions. Donc on ne dit pas tout, mais en général, ce que l'on dit, c'est fondé.
Donc pas de bluff, mais faut peut-être s'attendre à quelques déconvenues si on se rend compte que dans tout ce qu'on ne nous a pas encore dit, c'est moins brillant que ce qu'on a espéré.
Ah mais il faut être lucide. D'abord, nous n'avons pas le recul suffisant, par exemple, pour voir en matière de sécurité le risque à moyen terme, puisque nous avons un risque à court terme, qui est généralement le risque le plus important sur les vaccins, mais quid des effets secondaires après 6 mois. Donc il y a des incertitudes qui demeurent, mais il faut quand même garder le discours le plus positif possible, parce qu'encore une fois, on sait qu'il y a une anxiété par rapport au vaccin qu'il va falloir lever en France.
On parle d'argent, de bénéfices, d'investissement. Est-ce que les labos jouent aussi leur image sur le Covid? Est-ce que finalement certains peuvent pas se dire tant pis, on gagnera pas beaucoup d'argent là-dessus, mais on se fera énormément de publicité?
Vous savez, il faut bien voir que l'industrie pharmaceutique est une industrie qui apparaît toujours comme étant excessivement rentable, mais elle est avant tout excessivement risquée. Et en particulier, l'industrie du vaccin, qui est dominée par 5 laboratoires dans le monde, qui ont à peu près 80% du marché, parce que cela nécessite de quelques 20%, à peu près des chiffres d'affaires en recherche et développement. Vous avez beaucoup plus d'échecs que de succès, et qui va générer des bénéfices de façon très différenciée en fonction des laboratoires. Certains ont des stratégies visant les pays riches avec des prix qui ne sont pas au prix coûtant, c'est le cas de Pfizer et de Moderna, et d'autres sont quasiment à prix coûtant comme AstraZeneca, peut-être on verra Sanofi, probablement pour les pays plutôt à revenus faibles et intermédiaires, et ceux-là vont faire très peu de bénéfices. Donc on ne peut pas généraliser et penser que tous les gagnants vont réaliser des profits absolument colossaux. Certains vont à peine amortir les investissements qui ont été réalisés, d'autres vont réaliser des profits significatifs, c'est clair, et ce sont les premiers arrivés qui m'ont réalisé les profits les plus importants.
Eh ben merci beaucoup Frédéric Bizard d'avoir allumé la lumière sur cette course au vaccin ce soir dans On défait le monde.
Merci à vous.
On défait le monde, c'est jusqu'à 20h. Vous restez bien là. Dans un instant, la deuxième info pour briller au dîner. On va parler rugby avec Brice Dugénie. À tout de suite.
RTL Soir, on défait le monde. On défait le monde dans RTL Soir. C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
C'est la deuxième de ce soir. Tout à l'heure avec Laurent, c'était le palmarès des mots de passe. Désormais, c'est la deuxième avec Brice pour parler rugby.
Oui, je voulais revenir sur Christophe Dominici, l'ailier du 15 de France qui nous a quitté tragiquement cette semaine. Et évidemment, sur ce match du 31 octobre 1999, peut-être le match du siècle de l'équipe de France de rugby. Demi-finale de Coupe du Monde, France-Nouvelle-Zélande. À la mi-temps, les Français sont menés 17 à 10. Et c'est Christophe Dominici qui a été étincelant en première mi-temps, mais ça n'a pas été suffisant. Et bien, dans les vestiaires, c'est lui qui décide de prendre la parole. Ça n'était pas prévu. Lui, petit homme en short blanc et au maillot trop grand, se met au milieu des gros, vous savez, des avant. Et il leur dit cette phrase: j'ai vu dans les yeux des blacks, ils se caguent. Autrement dit, ils ont peur, ils doutent, si vous voulez, en bon français. Les entraîneurs de l'époque, Pierre Villepreux et Jean-Claude Scrella, devaient prendre la parole, mais ils comprennent qu'il faut laisser Dominici remonter les troupes. Ils sortent du vestiaire, ne diront rien. À leur retour sur le terrain, les Français vont mettre 33 points en 30 minutes aux blacks, la meilleure équipe du monde, dont cet essai.
Christophe Dominici a pris le ballon, essai français. Essai de Christophe Dominici, c'est un génie. Essai extraordinaire. Un rebond favorable et Christophe Dominici qui surgit.
Domi qui surgit avec ses partenaires Mine, La Maison, Pelouse, Tourner, Ntamak et les autres. Il l'emporte 43-31.
Info pour briller au dîner, signé Brice Dugénie. Les commentaires sur cet essai, Christian Jean-Pierre et Bernard Laporte, qui est aujourd'hui le président de la Fédération Française du Rugby, qui sera notre invité demain matin à 9h10, juste avant le France-Italie de la Coupe des Nations. Coupe d'automne, bien sûr, il est 19h39.
RTL. Le loser de la semaine.
C'est le moment où elle révèle sa vraie nature, en écoutant que son sens critique sans égal. Elle désigne le loser, le grand perdant de la semaine. Et ce soir, Céline, c'est une initiative malheureuse que vous épinglez, celle de Marlène Schiappa.
Oui, qui signe cette semaine une arrivée fracassante sur le réseau social des jeunes. Ce réseau sur lequel vous n'êtes pas, donc TikTok, arrivé, qui a fait...
C'est
un constat.
Mais c'est sa vraie nature.
Vous avez un compte sur TikTok?
Non.
Bah voilà.
Et Céline, vous en avez un?
Non plus, c'est parti plus jeune. TikTok, arrivé donc de Marlène Schiappa, qui a fait sensation avec Beyoncé en fond sonore.
Salut jeune entrepreneur. Je m'appelle Marlène
Schiappa
et j'arrive sur TikTok.
Hey, salut jeune entrepreneur. Marlène est dans la place, jeune entrepreneur. Ça vous rappelle rien?
Moi, je pense que la question, elle est vite répondue.
Mais oui, Jean-Pierre Fanguin, ce pseudo-businessman qui s'était fait remarquer cet été en invitant les internautes à faire de l'argent avec lui.
Salut à toi, jeune entrepreneur. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone?
costume très ajusté, le jeune homme est devenu une star des réseaux sociaux. Seul problème, il est depuis dans le collimateur des autorités suisses qui soupçonnent une escroquerie de vente pyramidale. Tellement fun de reprendre le concept d'une arnaque quand on est ministre, ont réagi certains internautes. Mais Marlène Schiappa n'est pas la première politique à se lancer sur TikTok. Emmanuel Macron l'avait fait dès cet été, rappelez-vous, pour féliciter les bacheliers.
Vous venez d'avoir votre bac, ce message est pour vous. Aujourd'hui, profitez, fêtez le baccalauréat. Et après... bon courage.
Faites la fête. Et après, bon courage. Oui, très lucide, hein, le président, sur les mois qui s'annonçaient, et très formel aussi, pas très TikTok dans l'esprit. Alors qu'un autre lui surjoue ce côté jeune, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui avait répondu dans la foulée au chef de l'État. C'était juste après le poste présidentiel. Il reprenait le morceau Anissa de la rappeuse Weshden. Je ne sais pas si ça vous parle.
Ma fille adore.
Pas sûr. Morceau qui raconte une relation infidèle. Écoutez.
T'appelles pour ton bac. Toi, tu parles à Macron, mais moi, je m'appelle Mélenchon. Tu es hors de ma vue. Va voir ton parcours.
C'est chaud.
Tu hors de ma vue, va voir ton parcours sup. Et ça l'amuse beaucoup, Mélenchon, de se moquer du président sur TikTok. Il a tellement aimé ça qu'il a recommencé le mois dernier. Vous savez, quand le gouvernement a annoncé le couvre-feu, cette fois, en s'appropriant les paroles de bandes organisées, des rappeurs du collectif Très Organisé.
C'est jeudi, c'est pas samedi. C'est pas la capitale, c'est Marseille, bébé.
C'est Marseille, bébé.
Roue libre.
Un contresens.
Enfin, après avoir entendu ça, on se demande quand même si le contresens, c'est pas juste d'avoir des responsables politiques qui jouent aux ados sur TikTok.
Le titre de loser de la semaine, donc, décerné par Céline Landreau, comme tous les vendredis soirs, 19h42. Attention, on a un cadeau pour vous.
Les semaines se suivent et les cadeaux fantastiques se succèdent. Vendredi dernier, on vous offrait une semaine à la montagne. Et ce soir, suspense.
Monsieur Cadeau,
c'est plaisir. Ah ouais. Alors Monsieur Cadeau, Grégory Caranoni, est-ce que vous avez encore un séjour dans votre besace?
Je ne sais pas par quoi commencer, à vrai dire, j'ai plein de cadeaux. Mais je vais commencer par Weekend.
Comment
Desk.
Allez-vous déjà? Vous allez
ça va super bien, j'ai la besace remplie de cadeaux. J'en réserve un pour la toute fin de l'émission.
D'accord.
Grâce à Weekend Desk, le spécialiste des courts séjours sur internet, vous jouez ce soir pour un week-end de 2 jours pour 2 personnes au domaine de Villers, avec accès au spa en illimité. Alors attendez, je compte. 1, 2, 3 et 4. Il y a bien 4 étoiles, absolument. 4 étoiles pour ce spa, cet hôtel, qui se situe à 6 km de Deauville et à 1 seul kilomètre de la plage. Alors, je pousse la porte. Et là, dès votre arrivée, vous êtes assuré de passer un week-end de détente et de respirer un bol d'air frais.
C'est vrai qu'il devait faire plus court.
Ouais. Non, mais c'était bien, là.
Mais attendez, je n'ai pas fini. Il y a deux choses exceptionnelles. Il y a un accès illimité au spa de 350 m2, incluant une piscine couverte et chauffée de 14 mètres. Un hammam, un bain bouillonnant et un sauna infrarouge. C'est extraordinaire.
Un sauna infrarouge.
Ouais. Ah, je suis désolé, j'ai plus le temps. Pour cela, vous pouvez, si vous voulez plus d'infos, vous allez sur weekenddesk.fr, mais il y a une question à laquelle il faut répondre, Cyprien.
Absolument, bon, c'est super en tout cas. C'est très bien, Villers-sur-Mer, je connais, c'est magnifique.
Grosse production, Monsieur Cadeau.
Il prend ses aises. Alors, on vous parlait des accents tout à l'heure. Lequel de ces personnages a l'accent de Marseille? Est-ce que c'est A, Jean-Claude Gaudin? Est-ce que c'est B, Kim Jong-un? Ou est-ce que c'est C, Obi-Wan Kenobi? Est-ce que c'est Jean-Claude Gaudin, Kim Jong-un ou Obi-Wan Kenobi? Lequel a l'accent de Marseille? Si vous avez la bonne réponse, direction Villers-sur-Mer. Ça a l'air magnifique.
3-2-1-0 à partir de maintenant, le standard est accessible. Merci, Monsieur Cadeau.
Je tiens quand même à vous dire que on vous avait fait gagner il y a 2 semaines la possibilité de gagner la guitare d'Angus Young. Ouais. Je vais vous redonner une possibilité de le faire ce soir. Voilà, c'est cadeau.
Et comment on fait?
Je vous le dirai tout à l'heure.
Okay. Oh là là. Suspense tout à l'heure, 8h moins le quart.
On défait le monde sur RTL.
19h45, c'est le billet retour un peu spécial ce soir.
Oui, d'habitude on revient sur une info qui a disparu des radars, mais cette semaine, on avait nous aussi envie de vous parler du dieu du foot, de Diego Maradona. Et évidemment, Brice, en tant que grand reporter du service étranger, faut-il le rappeler, c'est Maradona, l'étrange diplomate qui vous intéressait.
Oui, d'ailleurs, on retrouve cet engagement politique de Maradona dans les messages d'hommage ces derniers jours. L'ex-président brésilien Lula salue l'ami du peuple. Nicolas Maduro, président vénézuélien, évoque le compagnon du combat socialiste. Et Evo Morales, en Bolivie, parle lui du Maradona qui a défendu la cause des plus pauvres. Il n'évoque pas ou très peu le joueur de foot. Maradona, il n'a jamais abandonné ses idées de gauche, sa sympathie pour les régimes socialistes. journaliste. L'engagement politique de Diego Maradona, c'est aussi à chaque fois l'amitié pour des hommes. Fidel Castro à Cuba, Hugo Chavez, puis Nicolas Maduro au Venezuela, Lula au Brésil. À chaque fois, les classes populaires contre l'ordre établi, le faible contre le fort, et puis l'Amérique latine face à l'impérialisme américain. Quelques jours après la mort d'Hugo Chavez au Venezuela, voilà ce que déclarait Maradona.
Hugo Chavez a cambiado la forma de pensar del latinoamericano porque prácticamente
Hugo Chavez, c'est celui qui nous a fait changer d'état d'esprit, nous a appris à nous affranchir du modèle américain. Chavez s'est battu pour son peuple, son pays, pour un idéal. Il faut continuer ce combat. Et Diego Maradona n'a jamais épargné les présidents américains. Pour lui, je cite, George Bush était une ordure, Bill Clinton une tête de thermos et Donald Trump un tyran, c'est ce qu'il déclarait encore il y a deux ans lors d'un meeting politique au Venezuela.
Brice, on sait d'où viennent ces convictions politiques ?
Alors pour comprendre cet engagement, écoutez ce que Diego Maradona répondait à un journaliste quand celui-ci lui demandait s'il souhaitait un jour s'engager en politique, c'était en 2011.
Yo no es que estoy queriendo me ganar un lugar en el gobierno, no, no.
Moi, je ne veux pas d'une place dans un gouvernement, dit-il. Ce que je veux, c'est soutenir les politiques qui veulent aider les plus fragiles, les plus pauvres et surtout sortir les gamins des rues. Tout est là, en fait. Diego Maradona, eh bien, il parle de lui, le pibé des oros, gamin de Buenos Aires, celui qui n'a jamais cessé d'être ce gamin des quartiers défavorisés. Diego, le petit garçon qui va donner aux habitants pauvres des quartiers usés de Naples l'occasion de retrouver leur fierté face aux riches villes du nord de Milan et de Turin. Ce que Maradona résume avec cette formule.
Yo soy de la gente,
moi j'appartiens au peuple, je fais partie du peuple et rien d'autre. Maradona se place toujours du côté du peuple et il n'a jamais appartenu à un mouvement politique, il préférait garder une forme de distance, d'indépendance et il donne régulièrement son avis sur l'élection en Bolivie, l'élection brésilienne, il fait part de sa sympathie pour la cause palestinienne. Mais comme pour tout, hélas, Maradona est aussi un peu excessif, parfois un peu pathétique, il ne voit pas ou ne veut pas voir que bien ses dirigeants politiques, ils utilisent son image et sa popularité.
Oui, parce que le problème c'est qu'il n'a pas fait ça qu'avec des personnes très fréquentable.
Non, Chavez, Maduro, Castro sont rarement cités comme des exemples de démocratie, mais entre naïveté et provocation, Maradona semblait en fait s'en accommoder et les opposants politiques de ces pays lui en ont beaucoup voulu. Et puis il y a aussi l'autre aspect de Maradona qui, pour un gros chèque, parfois s'asseyait un peu sur ses principes. On se souvient de ce match exhibition en Tchétchénie avec le dictateur Kadyrov ou bien ce chèque qu'il a accepté pour quelques millions d'euros d'entraîner le fils de Muammar Kadhafi pour le faire progresser au football. Ultime clin d'œil à son engagement politique. Maradona est mort un 25 novembre, le même jour que Fidel Castro, 4 ans après.
La politique et Maradona, le billet retour de ce vendredi soir signé Brice Dugénie. Puisqu'on parle de Maradona, on en parlera côté foot demain sur RTL. Dans Refait le match avec Christian Olivier, toute l'émission 18h30, 20h consacrée au numéro 10 argentin. Restez bien là dans un instant, la troisième info pour briller au dîner avec Céline. A tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir.
Ce week-end, si c'est pas déjà fait, Stéphane, vous allez peut-être craquer en faisant vos courses sur un calendrier de l'Avent. Le compte à rebours commence mardi, Cyprien, il vous reste quelques jours, le 1er décembre donc. Mais d'où vient cette tradition de manger un chocolat par jour jusqu'à Noël ? Au départ, c'est religieux. L'Avent est inauguré au 6e siècle par le pape Grégoire Ier. Le 4e dimanche avant Noël, on commence donc à se préparer à célébrer la venue du Christ. Et au fil des siècles, on prend l'habitude de préparer la crèche en ajoutant chaque jour un nouvel élément de décoration. De la paille, un personnage. Le calendrier en tant que tel, lui, n'arrive que bien plus tard en Allemagne. Au 19e, on faisait patienter les enfants en leur offrant une image pieuse chaque jour à partir du 1er décembre. En 1920, le premier calendrier de l'Avent avec de petites fenêtres, vous savez, est commercialisé. Ah. Les chocolats, eux, n'arrivent que dans les années 50. D'accord. Depuis, le produit s'est exporté bien au-delà des frontières allemandes et les calendriers de l'Avent sont diversifiés. Bah ouais. Bière, produits cosmétiques, à chacun son petit plaisir coupable avant les fêtes.
Alors Marie me dit qu'elle savait déjà tout ça.
Je savais déjà tout ça.
Et alors moi j'ai ça, une deuxième dur. Info pour briller sur l'info pour briller de Céline. Ouais. C'est que le 1er décembre c'est quand même un jour exceptionnel. Ah. C'est l'anniversaire de Cyprien.
Ouais. Oh, oh oui.
Ouais, c'est mon anniversaire.
Oh.
Ah ouais.
Ouais.
Et ce week-end, c'est l'anniversaire de Brice aussi.
Dimanche. Voilà,
c'est un festival, on va le faire ensemble, je pense.
Ah bah, non. Bon, bah, c'est interdit.
Oui. Ah oui, c'est
vrai. On vient manger une pomme. Ou rêve.
On peut y aller, les amis, 19h52. C'est Marche ou Rêve, c'est votre moment quand on met en valeur vos projets ou vos initiatives les plus originales.
Et tout au long de cette saison, on vous présente des auditeurs qui prennent des décisions radicales, originales, et on prend de leurs nouvelles régulièrement. Souvenez-vous, fin août, on vous avait fait découvrir Perrine et Christophe. Avec leurs trois enfants, ils avaient tout quitté pour faire un tour du monde à vélo. Et alors Laurent, quand on les avait eus en ligne fin août, je me souviens, ils étaient en Allemagne, hein, en Autriche, pardon.
En Autriche,
ouais, c'est ça.
Rappelez-vous, le 7 juillet, ils ont dit au revoir à leur travail, leur maison, leur ville, Cholet dans le Maine-et-Loire. L'objectif de départ, je vous rappelle, hein, 13 000 km, une quinzaine de pays. Et je peux vous dire qu'ils ont connu plusieurs péripéties. Bonsoir Christophe.
Bonsoir tout le monde, bonsoir l'équipe.
Bonsoir.
Trois mois après, où êtes-vous actuellement ?
Alors nous sommes en Turquie, sur la côte Égéenne turque.
Eh ben, vous avez bien pédalé.
Racontez-nous, vous avez gardé
alors,
les vélos
non,
depuis
justement, c'est bien. Ouais. Eh bien non. Alors effectivement, là, ce qui s'est passé, c'est qu'on est, on avait traversé l'Autriche, donc après avoir vous avoir eu la dernière fois. Et en fait, avant d'arriver en Hongrie, on s'est trouvé devant une frontière qui était fermée. Donc, à cause du Covid. Donc on a changé nos plans, on s'est dit on va faire l'Eurovélo 8, on va descendre en direction de la Grèce, les Balkans. Seulement ce qu'on n'avait pas évalué du tout, on s'est dit bon bah c'est une piste cyclable, ça va être facile, mais c'est le relief.
C'est sûr.
Ça vous fait rire, vous. Ça vous fait rire. Ouais. Et on s'est dit, bon, allez, ça va le faire. Bon, on a commencé à monter dur, à descendre dur, à monter dur. Et le moral, elle est un petit peu avec les montées et les descentes. Et puis, ben, la Croatie, pareil. Et vraiment, là, au-delà de ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'était une piste apparemment cyclable, mais c'était des routes, en fait, de fous, sans place pour les vélos, avec des gens qui ne les respectent pas forcément non plus, les cyclistes. En gros, on a eu très, très peur. On s'est dit bah là on s'éloigne un petit peu de ce qu'on voulait, hein, du rêve on va dire, et on s'est dit bah on va changer de fusil d'épaule. On s'est posé avec Perrine, on s'est dit bah qu'est-ce qu'on veut vivre dans ce voyage, et en fait bah pas ça. On n'avait pas envie d'avoir peur, on n'avait pas envie d'être épuisé, on a envie d'avoir du temps et d'en profiter. Donc bah ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est débarrassé des vélos. Et puis, on s'est acheté un camping-car. Donc, un camping-car avec panneaux solaires, éoliennes, enfin vraiment.
Ah ouais, le grand confort.
Super sympa, super. Alors, par rapport au vélo et la tente, ouais, carrément le grand confort. Ça n'a rien à voir.
C'est les enfants qui étaient contents,
beaucoup,
on imagine, non ?
C'est carrément minimaliste. Pardon ?
Les enfants étaient contents, on imagine, de ce changement, non ?
Oui. Bah, surtout Lily Rose, je pense. Les petits, ils suivaient tout, ils étaient contents. Enfin voilà, voilà, c'est pas eux qui pédalaient les plus non plus. Lily Rose, oui certainement. Bah nous aussi, hein, finalement, on s'y retrouve. On est dans quelque chose de beaucoup moins physique, hein, ça c'est évident. Mais on en profite beaucoup plus. On est descendu donc Croatie, Monténégro, Albanie. On a vraiment pris le temps en Albanie, c'est magnifique. Et on voulait continuer vers la Grèce, et puis là aussi, frontières fermées, voilà, fallait être résident pour rentrer. Donc on s'est dit, avant que les autres frontières se ferment, on a traversé la Macédoine du Nord, et puis la Bulgarie, et on est arrivé en Turquie fin octobre. Et là, on est en Turquie, qui connaît un couvre-feu, c'est-à-dire que là, il est 22h, 20h et 10h du matin, les week-ends, personne ne doit être dehors, sauf bonne raison. Hein. Il y a des horaires pour que les enfants sortent et d'autres, les personnes âgées sortent. Enfin voilà, c'est quelque chose d'assez léger, mais pour nous finalement, ça nous affecte pas du tout parce qu'on a notre maison et en fait, elle est sur roue. Et en fait, quand on a envie de se poser quelque part, on se pose quelque part. Là, on est en pleine nature, sur le bord de la mer, sous la lune. Il y a personne. On a les oliviers. Ouais. Ben oui, en plus c'est super beau, on se baigne aussi. Hein. Mais enfin,
bon, arrêtez, non, je ne fais plus là.
À bientôt.
Bonne route, Christophe, avec le camping-car, et poursuivre vos aventures. Ouais. La page Facebook, le compte Instagram, Rêve sur Terre.
Et puis on reprendra les nouvelles.
Évidemment, on a un gagnant ce soir.
Un gagnant qui va aller à Villers-sur-Mer, c'est Jérôme. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir RTL, bonsoir à tous.
Comment ça va Jérôme?
Ah bah super, je suis ravi de vous avoir en ligne, c'est super.
Vous habitez où? Vous nous appelez d'où?
À Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine.
Ah, très bien, pas loin, ça vous fera pas une longue route. Bon, il faudra attendre un peu pour aller à Villers-sur-Mer, parce qu'en ce moment, on n'a pas le droit de dépasser 20 km.
Oui, on va attendre que la situation s'améliore un peu, mais c'est génial. Hein.
Je vous répète la question quand même, histoire d'être sûr. Quel personnage a l'accent marseillais? Est-ce que c'est Jean-Claude Godin? Est-ce que c'est Obi-Wan Kenobi ou est-ce que c'est Kim Jong-un?
Bah, c'est Jean-Claude Godin, bien sûr.
Bravo Jérôme. Villers-sur-Mer, c'est très beau. Vous allez voir, il y a très belles maisons, c'est très joli.
Vous avez des actions
non.
Là-bas ou...
Ouais, non, c'est vrai que...
trois fois dans l'émission.
Bah, c'est pas très connu comme endroit et c'est très joli.
Très bien.
D'accord. C'est vrai que la Normandie, c'est pas très connu comme endroit.
Bah, pas tous les endroits.
On souhaite le meilleur à Jérôme, merci de votre fidélité. Des précisions sur ACDC?
Pour pouvoir remporter la guitare d'Angus Young que Cyprien a gratté un petit peu tout à l'heure, je vous fais écouter, c'est un cadeau. Oui, c'est Cyprien.
Ah oui, c'est bon en plus.
Oui, c'est bon, bien sûr.
C'est pas bon, hein.
Bah non, je suis nul, ça fait 30 ans que j'ai
pas
joué
une guitare. C'est ce que je dis.
Vous envoyez ACDC au 74 900 et vous pourrez participer au tirage au sort qui aura lieu dans les grosses têtes très prochainement.
Wow. Super.
Si vous ne nous croyez pas, il y a une petite vidéo qui sera mise sur les réseaux sociaux par Laurent.
Dans un instant sur Twitter pour Défaire le Monde.
Toute l'équipe reviendra vendredi prochain pour Défaire le Monde entre 19h15 et 20h.
Salut.
Bon week-end à tout le monde. Dans un instant, l'actualité avec Céline.
On défait le monde sur RTL.